vraiment, elle est immense. Je voulais remercier particulièrement le SCP avec qui le comité 21 a des relations très proches et qui nous accueille très souvent ici. C'est un lieu très agréable et en plus je trouve toujours intéressant d'être dans ces lieux où se forment les intelligences et les compétences de demain, puisque quand on parle de développement durable, on essaye quand même de s'inscrire dans le temps. Alors, on est ce petit déjeuner s'inscrit dans l'ensemble de nos travaux, particulièrement sur les questions de climat. Bon, alors je crois que maintenant, qui ne sait pas que la COP21 va se passer en France? Non, c'est une blague. Donc voilà, je crois qu'on parle beaucoup de climat. Certains considèrent que c'est un focus trop fort. Moi, j'ai tendance à considérer que le climat est une telle problématique qu'il faut créer une alliance globale sur ces questions de climat, il faut en faire une priorité, et c'est comme ça qu'on va trouver les solutions. C'est pour ça que le comité 21 Club France, on a imaginé Solution COP21, alors qui est déjà sur Internet, mais qui sera évidemment très fortement présent au Grand Palais du 4 au 10 décembre. L'idée étant de montrer qu'il y a des solutions, que ces solutions qu'on a pu inventer, pour certaines ne sont pas à l'échelle et qu'il faut accélérer tout ça. Et je ne sais pas si vous avez vu l'écouter l'information récente. Il s'est passé beaucoup de choses à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies ce week-end. D'abord le vote des objectifs de développement durable qui prennent la suite des objectifs du millénaire, ces 8 objectifs sur des questions plus de développement au sud. Là maintenant, on est sur 17 objectifs, mais qui sont globaux au niveau de la planète. Tout ça est issu évidemment de Rio plus 20 il y a 3 ans. Ce qui est très important pour nous, c'est qu'il y a un 17e objectif. Donc le 17e, c'est toutes les modalités de mise en œuvre. Et je crois que c'est une première fois où on reconnaît clairement les questions du multi-acteur, de la finance, de la compétence, tout ce qui nous habite ici avec les 500 membres du comité 21 et les 120 membres du comité d'experts. Il y a des décisions qui ont été prises. Bon, la France a annoncé qu'elle est passée de 3 à 5 milliards de financement du fonds vert à échéance de 2020, mais il y a eu aussi des engagements de pays renforcés. Et il y a une ONG américaine qui a fait une étude très intéressante. Elle a totalisé les 72 engagements de pays qui ont déjà eu lieu. Vous savez que sur les 195 pays, il y a eu 72 pays qui se sont engagés. Ils ont fait l'addition en se disant à quoi ça correspond tout ça. Le total des engagements actuels, c'est 1 degré. Donc ça veut dire que si on prend les perspectives du GIEC, qu'on met ces engagements individuels de pays, on est à plus 3,5. On est encore loin des deux, mais ce n'est pas neutre du tout. 1 degré, c'est déjà énorme. Et je crois que c'est un bon signal, mais ça veut dire qu'il ne faut pas se relâcher. Et ça veut dire évidemment qu'il faut que les États prennent des décisions, mais que nous tous, dans nos organisations, ben, on pousse, on invente, on développe, parce que ça ne se fera pas uniquement au niveau des États. La place de la santé dans tout ça est importante. D'abord parce que les dérèglements climatiques posent des problèmes de santé d'ores et déjà. Les déplacements du moustique tique sont liés au dérèglement. Les pollinisations aujourd'hui sont renforcées par la chaleur. Il y a des plantes comme l'ambroisie qui étaient très liées au territoire de Rhône-Alpes qui est en train de se généraliser. L'évolution des chênes verts, des cyprès, des platanes, tout ça fait qu'aujourd'hui, un maire ne va plus pouvoir planter de la même façon des arbres parce qu'il va falloir qu'il prenne en compte la santé et que la question du climat, on voit les éléments extrêmes, on comptabilise les décès lors des canicules, on va parler aujourd'hui de. Mais on ne voit pas derrière qu'il y a les questions de qualité de vie. Quand on parle de santé, c'est des gamins en échec scolaire, c'est une baisse de performance économique. Donc on est sur une problématique globale de santé qui est en train de se déplacer, se dérégler du fait du climat, en tout cas de renforcer les problèmes. Et ça, c'est le cas sur toutes les précarités. Donc c'est pour ça que pendant la COP21 au Grand Palais, le 8, 9, je sais plus, le 9, avec la Fondation Agir contre l'exclusion et plein d'autres partenaires, et vous êtes les bienvenus, on va organiser les rencontres sociales de la COP autour de 3 dimensions. L'emploi, en quoi tout ça peut jouer sur l'emploi, disparition de nouveaux emplois. La question de la santé et la question des gens les plus en précarité, de la grande pauvreté, parce que quand on regarde de près, ben les gens qui sont déjà en difficulté aujourd'hui, que ce soit sur le plan de la santé, pour des raisons économiques, évidemment vont être en de plus en plus grande difficulté. Et on pourrait parler évidemment, et le cas en ce moment des migrations, des études de la sorte en ce moment annoncent des chiffres de l'ordre de 30 millions de migrants climatiques dans le monde à partir de 2020. Vous voyez bien que la problématique actuelle peut être infiniment renforcée. Voilà. Donc, on est sur des sujets extrêmement sérieux. On a besoin de comprendre ce qui se passe pour agir. Donc, je suis vraiment ravi de tout le travail qui a pu être fait. Et merci à IEMS qui va se présenter tout à l'heure d'avoir fait cette étude à partir des médicaments. On va vous expliquer, mais qui permet, en localisant les choses, parce que quand on parle de dérèglement climatique en France, on ne peut pas avoir la même approche en Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, en Alsace et en PACA. Donc on a besoin de se localiser les choses, donc on a besoin de comprendre. Mais avant la présentation de cette étude, j'ai proposé à Monsieur Toussaint de me rejoindre pour nous aider à comprendre tout ça, une vision un peu globale. Vous préférez être assis au pupitre? Vous serez mieux peut-être au pupitre. Je crois que vous avez quelques images. Donc, si vous pouvez, allez, on a prévu, je crois, un quart d'heure avec vous, nous donner une culture générale sur le sujet, nous faire comprendre et nous montrer les enjeux. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.
Voilà, merci Gilles et merci Sarah de cette invitation à venir justement vous présenter un certain nombre de ces éléments qui vont peut-être donner quelques repères nécessaires autour de ces relations entre climat et santé. L'élément le plus important sur lequel je voudrais insister, c'est notre besoin de mieux comprendre et notre besoin de comprendre les interactions des facteurs entre eux et donc leurs interdépendances. Et c'est donc autour de ces sujets-là qu'on va venir, sachant que l'ensemble de ces modifications répondent à ce que sont principalement les pressions de l'activité humaine et que le changement climatique n'est que l'un de ces très nombreux facteurs qui sont en interaction et qu'il va falloir comprendre et étudier. Et donc le but de ce travail qui a été demandé au niveau du Haut Conseil de la Santé publique par le PNACC c'était le Plan national d'adaptation au changement climatique écrit en 2011, par le ministère, essentiellement piloté par le ministère de l'énergie, de l'écologie et du développement durable, était d'inscrire sur les questions de santé, avec le Haut Conseil et avec la Direction générale de la santé, des façons de mieux concevoir, de mieux comprendre l'ensemble de ces éléments, de façon à les intégrer dans des politiques publiques, des politiques de prévention sur le très long terme. Et c'est bien entendu sur ces horizons-là que nous allons discuter maintenant. Pourquoi? Parce que l'horizon très court, ben on le sait, c'est plus 0,6 dans le monde, plus 1,2 en France l'année dernière, l'année la plus chaude, et 2015, pour les 6 premiers mois de l'année, ce sont les 6 premiers mois les plus chauds depuis 1880. On voit que ça ne cesse de s'accélérer. Et donc, on a bien, battant de record en record, la fonction d'accélération de cette envolée qu'il va falloir pourtant réussir à contrôler. Cette élévation, on la voit sur ce qu'a été le réchauffement au cours des 10 000 dernières années, hein, donc l'événement, puis un petit refroidissement, et puis cette très brutale accélération des 2 derniers siècles directement liée aux activités humaines. C'est sur cette échelle de temps maintenant qu'il faut voir ce que sont les possibilités d'adaptation. Puisque en dehors de cette élévation thermique, l'élévation du niveau des mers elle va jouer sur nos littoraux, comme elle a déjà joué sur d'autres, hein. Vous en avez là un tout petit signal, si j'ose dire, c'est le nom de ce bâtiment construit en 1975 à Soulac, en Gironde, et voilà ce qu'il en est devenu 40 ans après. Vous avez la mer au pied des fondations de ce bâtiment. On a un double effet dans ce domaine qui commence à marquer. Alors que dans le même temps, autre élément en interaction, les départements les plus soumis à l'expansion démographique sont les départements littoraux. En France, nous avons 3 000 km de côtes très attractives. Les horizons sont fabuleux. Les couchers de soleil en Bretagne aussi. On a tous envie de passer nos étés, et pour certains plus que ça, au bord de l'eau. Et cette attractivité va malheureusement se trouver confrontée dans certaines régions à des erreurs de compréhension de ces risques qui ont abouti à près de 50 décès lors de la tempête Xynthia, associant vent, élévation du niveau des mers pendant cette tempête, rupture des digues et bien entendu cette erreur qui a été sanctionnée en justice très récemment. Mais on n'est pas les seuls. Sandy, il y a 3 ans, en octobre 2012, a eu exactement le même effet avec plus de 200 morts sur les 8 pays qu'elle a traversés. Et puis surtout, ces coupures de courant majeures qu'on n'imaginait pas dans une ville aussi développée que New York, et qui aboutit donc à ce coût majeur d'un deuxième ouragan, le plus coûteux avec 65 milliards de dollars, avec là encore un facteur aggravant qui était celui d'une élévation plus importante sur le côté ouest de l'Atlantique et donc sur la côte est américaine qu'elle ne l'est en Europe. Troisième élément, celui de l'élévation du CO2 inexorable, dont on voit aussi qu'elle s'accélère. Hein, ça s'est mesuré sur le centre de Scripps de Mauna Loa et l'équipe nord-américaine qui le suit année après année montre bien ces fluctuations saisonnières, hein, été-hiver, et puis cette élévation, la tendance générale qui nous a fait passer les 400 ppm l'année dernière. Et si vous ne devez retenir qu'une seule diapositive probablement de cette présentation, ce devrait être celle-ci. En effet, celle-là vous montre en bas, sur l'axe des abscisses, la quantité totale, en milliards de tonnes, d'énergie fossile dans les réserves connues, hein, de l'ensemble des ressources, pétrole, gaz. Et si on les utilisait, l'élévation thermique que l'on pourrait en attendre. À 20-25%, à l'horizon de 2100, on serait aux alentours des 2 degrés qui sont l'une des cibles, la principale de ces cibles. Si on en utilise la moitié, et donc si l'on produit la moitié du carbone, du dioxyde de carbone, en raison de la consommation de ces énergies fossiles, à ce moment-là, on sera plutôt autour de 3, 3,5 à l'horizon du siècle. Si on en consomme presque la totalité, à ce moment-là, très clairement, on est à 4, 5, 6, et on sait, dans ces conditions-là, que la machine s'emballe. Donc la question, l'utilisation actuelle des énergies, qui représente quand même 80% de la fourniture totale de nos besoins énergétiques, le mix n'arrive pas à se passer de l'énergie fossile, eh bien il va falloir pourtant que nous renoncions à 80% si nous voulons atteindre l'objectif dans les conditions énergétiques actuelles. 80%. Est-ce qu'on sera capable de le faire? C'est bien ça, toute la question de la transition énergétique. Quatrième effet, celui de la biodiversité, celui sur lequel on voit cet impact du nombre de jours de sécheresse, ici sur 3 périodes, couvrant la fin du XXe siècle et le XXIe siècle, et dont on voit par exemple en Aquitaine, hein, c'est une étude qui a été pilotée par Hervé Le Treut, qui a très bien analysé l'ensemble de ces éléments, avec cette augmentation très importante du nombre moyen de jours de sécheresse dans la région, et dont on voit bien entendu cet indice associé au risque d'incendie, avec à 2040 et 2060, ce qui était essentiellement le risque méditerranéen, se propager à l'ensemble du territoire. Donc avec, là encore, des conditions qui sont celles que nous avons connues cet été dans la région bordelaise, mais c'est aussi celles que les États-Unis, dans le même temps, en Californie, ont vues avec l'augmentation très importante du nombre de surfaces concernées chaque année, aboutissant au Rocky Fire de Californie de cet été. Dans le même temps, la diversité s'adapte ou pas. Et ce travail réalisé en modélisation par l'INRA à Nancy montre que l'actuelle couverture du territoire par la hêtraie française et l'ensemble des hêtres va reculer de façon très importante vers le nord et vers l'est, avec donc un remplacement de l'ensemble de ces espèces par des espèces potentiellement méditerranéennes, pins méditerranéens, chênes lièges. Et dans le même temps, on voit dans les maladies émergentes des associations qui tiennent compte de ce réchauffement et qui, pour le moustique-tigre, Aedes albopictus, va progressivement remonter chaque année de 2 départements vers le nord. Et il est maintenant en Île-de-France. Les premiers cas autochtones datent de 5 ans seulement pour la dengue et le chikungunya sur le littoral méditerranéen. Et on a eu un premier décès cette année d'un cas autochtone. Alors l'empreinte de l'ensemble de nos activités sur cet index synthétique que Joseph Stiglitz avait proposé montre bien qu'on a passé cette idée de la planète utilisable, utilisée, on l'a passée depuis presque 30 ans maintenant, et qu'on continue à utiliser, qu'on continue à s'imposer, et donc on est de plus en plus lourd sur l'ensemble. Ça peut être un peu résumé de cette façon-là, lorsqu'on voit cette expansion très importante de l'espèce, de la nôtre, à notre profit, mais au détriment des équilibres concernant les autres. Ce schéma théorique, si vous le regardez sur ce que sont les pêches en Atlantique Nord, eh bien c'est, pour une abondance des prises en 1900 avec le même indice de capacité, voilà ce que ça donne un siècle plus tard. Plus de poissons dans l'Atlantique Nord. Et pourtant, on continue à avoir des bateaux de plus en plus sophistiqués, de plus en plus larges, de plus en plus lourds, et des moyens pour aller détecter de plus en plus profondément la totalité et le peu de petits poissons qu'il reste, puisque les grandes pêches, les grandes unités ne se retrouvent plus. Et notre dilemme, c'est bien celui d'avoir, sur l'indice de développement humain que vous voyez ici, avec cette empreinte écologique qui ne cesse d'augmenter, un risque qui croise avec les pays les plus développés ici sur la droite, hein, les États-Unis notamment, mais nous ne sommes pas loin pour la France, la Grande-Bretagne, avec des pays qui sont encore plus importants, et la question qui est celle de où devrions-nous nous trouver pour tenir ce développement durable dont connaît la précision de l'oxymore, hein. Un développement, c'est juste une phase. Ensuite, il se passe autre chose, mais un développement durable, c'est juste diminuer la pente pour essayer de tenir un petit peu plus longtemps. La question de la durabilité se pose à chaque fois, surtout quand on ne voit personne se comporter pour tenir justement ce que devrait être notre horizon. Et là-haut, augmenter cette empreinte pour les pays du Golfe, mais aussi pour nos hôpitaux, par exemple. On est à 24 lorsque l'on regarde la consommation énergétique de l'un de nos lieux les plus importants dans le domaine de la santé pour prendre en charge toutes nos pathologies transmissibles ou non transmissibles. Et puis là-haut, vous avez encore d'autres lieux pour les sportifs de haut niveau, mais aussi pour les dirigeants politiques qui ne cessent de se déplacer pour se réunir au mois de décembre, très nombreux, avec beaucoup de transports et beaucoup de consommation énergétique et beaucoup de CO2 produits. En attendant, quelles sont les vulnérabilités nouvelles? La première, c'est le vieillissement. Le vieillissement, c'est principalement celui de ce que l'on peut voir avec l'âge dans le développement de ses capacités. Voilà le développement. Et puis ensuite, une phase inéluctable de déclin. C'est deux courbes très simples, très faciles à modéliser, qu'on retrouve dans tous les sports, dans tous les records, dans toutes les capacités physiologiques. Et qui fait que ce sont effectivement les plus âgés qui vont être les plus vulnérables. Pour la grippe, c'est 90% de plus de 65 ans, alors qu'ils ne sont que 20%. Dans la population, mais c'est aussi ceux qui vont montrer cette diminution progressive, vous voyez avec le temps, de la progression de l'espérance de vie, et avec des pentes qui sont divisées par 5 quasiment, donc le gain d'espérance de vie chez la femme a été réduit de 5 en seulement 6 décennies. Donc on voit bien qu'on commence à arriver à ces plafonds, et on voit bien aussi que dans le même temps, on a des impacts très forts sur cette courbe, des épisodes caniculaires comme celui que vous avez en 2003. Et ça, non seulement on le voit sur le bout de la chaîne, la durée de vie totale, donc l'espérance de vie moyenne des Français, mais on le voit sur le début de la vie. Le point de naissance est extraordinairement corrélé à ce qu'ont été les températures durant les jours, les semaines qui précèdent la naissance de l'enfant. Et donc on se rend compte que ce n'est pas des petits effets, ces effets thermiques. Si on les mesure dans un rayon qui est de l'ordre de 500 mètres de résolution sur les échelles de mesure de cette évolution à Paris, on se rend compte que la mortalité va suivre une courbe extrêmement précise que l'on peut détailler de cette façon et qui va dépendre évidemment de la température moyenne au cours du mois et donc évoluer en fonction de la saisonnalité, fonction du temps. Et cette courbe, on peut la voir sur tous ces domaines de performance, de survie au total, qui seront liés d'à peu près de la même façon. Et une courbe qui va aussi entre janvier et juillet, puis retour en octobre et décembre. Et en fait, avoir un optimum de survie aux alentours du mois de mai et puis du mois de septembre. On vient de le quitter. Et avec des effets qui vont être majeurs en hiver, hein, avec des pics de mortalité en janvier et décembre, mais aussi des effets de mortalité en juillet. Et donc, dès qu'on va décaler vers la droite, se posera la question de cette augmentation de la mortalité qu'on a pu voir, par exemple, sur l'épisode de 2003. Voilà la mortalité au pas de temps journalier en France, qui oscille, comme vous le voyez, entre 1300 et 1800 décès chaque jour. Et ce que l'on voit en bleu l'hiver, automne-hiver, en rouge printemps-été, c'est que le pic d'hiver bleu est toujours supérieur au pic d'été. Hein, donc on est bien sur cette courbe, beaucoup plus soumis aux mortalités d'hiver, en général en fin janvier, début février, sauf évidemment en 2003. En 2003, ça a été la seule année où la totalité de la mortalité quotidienne a été supérieure à celle des deux hivers précédents et suivants. L'été. Donc il y a bien eu, contrairement à cette discussion quasi philosophique qui a eu lieu en 2004, il y a bien eu un effet dit de moisson par des sujets qui auraient, entre guillemets, dû décéder dans les mois qui suivent et qui sont morts sur le contre-coup immédiat et sont sur l'effet de l'impact de la contrainte majeure qu'a été le stress thermique de toute cette phase de juillet et d'août 2003. Quels sont les couplages? Comment on comprend ces interactions? Comment on avance dans ce domaine? Je vous ai montré celle-ci. Si on regarde en une troisième dimension et qu'on met la relation entre la température et les capacités, en fait, ce qu'on va voir, c'est que sur cette courbe dite courbe de Moore, hein, que je vous ai montré déjà tout à l'heure, en fait, on va en avoir une autre qui va être perpendiculaire à celle-ci. Et puis, on va déplacer ça. Et puis, dans le temps, pour les sujets les plus âgés, à nouveau, on va déplacer en fonction de cette idéal thermique, pour avoir un optimum aux alentours de 25 degrés, autour de 23 degrés en France. Et puis ça dépend si on est au nord, si on est au sud, c'est plus chaud au sud évidemment, si on est en plaine ou si on est en altitude, c'est plus frais en altitude. Mais enfin globalement, on va constamment osciller sur le plan saisonnier autour de ce pic. Et donc si on construit à partir de là toute une série de relations d'optimum entre la totalité de ce que sont nos dépendances, et ça peut aller couvrir la vitamine D, les moyens énergétiques, la consommation de tabac qui va avoir un effet négatif, l'énergie dont on dispose, tous ces éléments-là vont avoir un optimum qui nous permet de développer nos capacités de façon maximale. Et donc quand on construit tout ça, on aboutit à ce que sont dans un certain nombre d'études, ce qu'on appelle des fronts de Pareto, qui définissent la capacité totale maximale selon les conditions. Et donc c'est autour de ça qu'on essaye, nous tous, les uns et les autres, d'optimiser notre fonction au quotidien pour monter le plus haut possible, et donc dans notre phase de développement, aller jusqu'au maximum de notre potentiel, physique en général aux alentours de 25 ans, sur le plan du langage on arrive à tenir jusqu'à 55-60 ans, et puis après progressivement on décline gentiment jusqu'à la fin. Mais ce qu'il y a aussi, c'est que cette totalité va avoir un effet qui va mettre en évidence cette expansion phénotypique au cours du 19e et du 20e siècle, puisque toutes ces relations vont aller jusqu'au maximum au début du 21e siècle. Et puis on va définir là maintenant des vulnérabilités, là où les plus âgés ou les plus jeunes sont les plus vulnérables, là où les plus précaires sont les plus vulnérables, là où ceux qui manquent le plus, ceux qui ont des maladies monogéniques ou polygéniques, lorsqu'on va associer entre eux ces risques, alors à ce moment-là, on a des zones de vulnérabilité sur lesquelles nos principaux prédateurs, hein, qui n'existent plus dans la forme macro, mais essentiellement dans la forme micro, hein, et ce sont principalement dans la microbiologie, les parasites, les virus et les bactéries dont les résistances ne cessent d'augmenter, qui seront là potentiellement les prédateurs les plus importants. Et donc toute la question de ce maintien ou de cette régression à l'horizon 2050 ou 2100 sera la résultante de toutes ces contraintes, plus celle de notre capacité à maintenir notre niveau économique. Et ces deux-là sont, comme vous l'avez vu, en grande difficulté compte tenu des effets de la première sur la seconde. Et ce coût de l'adaptation, qui est actuellement chiffré en centaines de milliards, nécessite aussi de voir que plus l'on retardera cette capacité, et plus le coût en deviendra élevé. Alors comment on a réalisé cette analyse? Ben, principalement en prenant sur ces scénarios de recherche celles de toutes les possibilités, y compris en mettant l'économie, l'énergie, les transports, le tourisme, la biodiversité, l'usage des sols, les grands cycles azote, phosphore, en mettant des scénarios qui sont des scénarios climatiques, des scénarios de diversité, des scénarios socio-économiques et démographiques, et en intégrant l'ensemble de ces scénarios à différentes échelles spatiales et temporelles pour définir de façon plus précise les impacts, d'abord, les vulnérabilités nouvelles dont j'ai parlé, et puis les interactions et les rétrocontrôles. C'est dans ce domaine-là qu'il faut accélérer notre façon de mieux comprendre, de mieux définir nos indicateurs pour gagner du temps sur la compréhension, parce que les choses, comme vous le voyez, s'accélèrent et vont de plus en plus vite. Alors, quelques exemples qui étaient couverts par les 20 domaines, il y avait 20 domaines dans le PNAC et sur lesquels on nous a demandé de réfléchir, sont celles qui concernent les effets sanitaires dans le contexte climatique, mais les effets sanitaires sur les espèces végétales, et donc en particulier sur la sécurité alimentaire, puisqu'on sait, la courbe que je vous ai montrée sur l'espérance de vie avec le recul de 2003, eh bien, c'est sur la production de maïs et de blé, c'est moins 12% en 2003 en France, c'est moins 14% en Russie en 2010, et c'est à nouveau moins 13% aux États-Unis en 2012. Donc à chaque fois, on a des impacts extrêmement importants. Et l'idée sera aussi de comprendre la résistance des approvisionnements pour des zones urbaines dont on imagine mal, puisqu'il nous faut à peu près un hectare chacun, pour tenir, dont on imagine mal que l'agriculture urbaine, celle des toits, puisse suffire à nourrir 12 millions de personnes dans le Grand Paris. Pour l'énergie, la question des effets, par exemple, d'interaction sur les données, le refroidissement de nos centrales nucléaires, nécessite aussi de comprendre le partage de la ressource. On a eu une très forte contrainte en 2003 sur, finalement, à quoi sert l'eau de la Loire. Aux baigneurs, pour se rafraîchir, aux agriculteurs, pour arroser, aux énergéticiens, à EDF, pour refroidir les centrales. Voilà, comment on définit un partage de l'eau dans une contrainte très forte qui ne va pas être de 3 ou 4 jours, qui va être de 3 ou 4 semaines à l'horizon de 2050. Les ressources et les qualités de l'eau doivent aussi être analysées. On en a des effets maintenant de plus en plus précis dans ces mesures, et dont on voit par exemple sur l'élévation des nitrates, l'augmentation progressive de cet effet de pollution dans les aquifères du bassin de la Seine, par exemple. Sur l'urbanisme, c'est des éléments sur lesquels la lutte contre les îlots de chaleur doit tenir compte, y compris, et vous le disiez tout à l'heure, Gilles, y compris sur la plantation, l'équipement, mais surtout la façon dont on doit concevoir les cadres de vie, dont on sait qu'ils sont importants, y compris sur le plan de la santé, hein, l'espérance de vie, mais aussi la qualité de vie est beaucoup plus importante dans les quartiers très arborés. Et donc, cet élément qui va rejoindre la question de la précarité, de la vulnérabilité, est aussi celle de la lutte contre les inégalités dans l'ensemble des zones urbaines. Pour la biodiversité, il faut comprendre cette modélisation dont on a vu juste quelques éléments, pourquoi les filovirus sont en train actuellement d'apparaître en Espagne. Les filovirus, c'est la famille d'Ebola, hein, et les premiers ont été mesurés en 2011, ont été retrouvés chez des chauves-souris dans des grottes au sud de l'Espagne. Donc elles sont, cette famille de virus est en Europe depuis quelques années maintenant. De la même façon que les molivirus là-haut sont en train de sortir du pergélisol au moment où le réchauffement nous amène sur les bords de l'Arctique à retrouver des espèces que nous n'avions pas rencontrées depuis quelques milliers ou dizaines de milliers d'années. Et puis comprendre aussi les grands cycles, ces grands cycles d'expansion, les interactions entre les différents champs, entre l'espèce humaine et l'ensemble des milieux qu'elle retrouve et qu'elle perturbe. Et cet effet-là, on le voit sur ce que Will Steffen et Johan Rockström ont publié en 2009, puis à nouveau en 2013 et 2015, montrant sur toutes ses limites la question dont le climat, mais aussi l'impact du CO2 sur les océans et l'acidification, avec la perte des coraux, perte de biodiversité majeure, les flux d'azote et de phosphore sur les grands flux biochimiques, comment cette utilisation, dans l'agriculture notamment, mais pas seulement, va perturber, comment ces aérosols atmosphériques vont se retrouver, comment les impacts sur la biodiversité, comment les ressources en eau vont pouvoir être utilisées et distribuées de façon équitable. Tous ces points-là nous donnent des éléments sur lesquels on voit que certaines limites sont déjà dépassées. Et donc la question de la durabilité est vraiment de remettre au cœur de ces éléments ce sur quoi nous pouvons agir, ce sur quoi nous ne pouvons déjà plus agir, et comment donc régler au mieux ces éléments pour passer un dérèglement climatique qui va avoir des impacts directs Et ces effets sanitaires, avec l'augmentation de la mortalité par les coups de chaleur, mais aussi par les maladies infectieuses, et puis d'autres éléments du dérèglement environnemental, aux façons générales, pour aller sur tous ces éléments de l'eau, des glaciers, des cycles d'azote, et sur des processus biologiques et écologiques, aboutir à des impacts indirects, de même que seront soumises à contrainte les structures sociales, et donc cette fois-ci les impacts économiques et des effets indirects sur l'ensemble de ces augmentations. Alors, quatre propositions pour finir. Le premier, c'est celui de maintenir cette vision de très long terme. On a, je dirais, la chance, philosophiquement, je ne sais pas si c'en est une, finalement, de pouvoir regarder aussi loin, mais en tout cas, on a la chance d'avoir à la fois les moyens techniques de l'observation, et vous en montrerez quelques éléments juste après, sur des indicateurs aussi simples et pourtant aussi parlants que la consommation de moyens médicaux de réhydratation, qui suit exactement ces éléments-là. Mais on n'a jamais eu surtout la capacité à modéliser, à comprendre, à pouvoir tenter de comprendre ces interactions. Il faut qu'on le fasse, et qu'on le fasse rapidement pour pouvoir, s'il y en a une petite porte de sortie, la trouver, la désigner, et ensuite se mettre en alignement pour pouvoir progressivement la prendre. Il faut inscrire l'ensemble de ces interrelations sur des plans généraux de prévention, qu'ils soient de santé publique ou qu'ils soient dans toutes les politiques, comme l'OMS l'entend sur sa définition de la santé, et sur les indicateurs. Et puis il faut avoir surtout une cellule qui reste vive, qui reste active, et qui soit là encore capable de maintenir sur le très long terme l'ensemble de ces opportunités d'action qui vont se révéler maintenant. La deuxième, c'est celle de la définition et de la prévention des grands facteurs de vulnérabilité, hein, mais aussi anticiper des marges d'adaptation plus réduites. Une population vieillissante n'est pas capable de réaliser autant de choses qu'une population jeune comme celle des pays d'Afrique du Nord, par exemple, hein, dont la pyramide des âges n'est pas du tout la nôtre. Et donc, les façons de s'adapter ne seront pas les mêmes. Il faut tenir compte de ces marges plus réduites. Il faut réduire les impacts les plus forts en ville sur les îlots de chaleur. Ça veut dire aussi, sur l'architecture urbaine, développer les mobilités actives, hein, venir à vélo pour cette conférence, réduire au maximum l'utilisation de ces énergies fossiles. 80%, c'est le chiffre à retenir. Et puis, arriver aussi sur de l'observation croisée. Donc, avoir tant sur le plan des indicateurs, des observatoires, que sur des structures de prévention ou de recherche, des capacités à comprendre ces éléments, associés les uns avec les autres, et développer là encore toute une série de réflexions sur les systèmes complexes, sur les interactions non linéaires, et proposer des programmes, qu'il s'agisse de l'ANR encore, associant santé, climat, impact technique, pollution, économie, et développer tous ces domaines-là pour mieux comprendre cette forme d'écologie de la santé qui est en train de se développer et de nous apparaître de façon aussi claire dans ce domaine. Voilà, j'en ai terminé, et quelques ouvrages, notamment celui de Bernard Swingedow en bas à gauche, L'homme malade de lui-même, vont également pouvoir éclairer ces éléments-là dans le débat. Merci à vous.
Merci Jean-François. Merci d'avoir balayé très, très largement. Je vous propose de vous rasseoir. On va prendre maintenant la présentation de nos amis de IMS Health. Et ensuite, on pourra vous solliciter par un petit temps de questions-réponses.
Merci beaucoup. Donc, c'est un petit peu difficile de passer derrière M. Toussaint. On va essayer d'être aussi clair et aussi intéressant que lui. Donc l'idée qu'on a eue ici, il y a quelques mois de ça, donc avec nos amis du comité 21, avec Gilles et Sarah, c'est de voir si on pouvait, à l'occasion de cette préparation de COP21, mettre en évidence d'éventuelles corrélations entre les phénomènes qui viennent d'être présentés, c'est-à-dire notamment les phénomènes de réchauffement climatique, de canicule, ou des phénomènes, on va dire, reliés, comme par exemple la pollution, avec des éléments de santé, en santé générale. Donc, il y a déjà eu des études sur, évidemment, les impacts de la canicule sur la mortalité des personnes âgées, par exemple, qui sont très bien documentées, très bien écrites, notamment autour de l'épisode de 2003. Donc, les arrivées aux urgences sur des phénomènes, on va dire, très graves et très aigus. Là, ce qu'on a cherché à faire, c'est regarder des impacts en population générale sur la consommation médicamenteuse de l'ensemble de la population. Donc pour ça, on a pris deux sujets qu'on va vous présenter, donc deux études en fait. Donc moi, je vous présentais la première et mon collègue Stéphane Sclison, qui est un spécialiste du deuxième sujet, va présenter la deuxième qu'il a directement pilotée. Donc les deux idées simples, c'est les suivantes. On va regarder d'abord, est-ce que les pics de canicule, est-ce que les événements caniculaires ont des impacts en population générale? Et deuxième idée, c'est est-ce que les pics de pollution, donc notamment dioxyde d'azote, ozone et les particules, ont un impact également en termes de consommation médicamenteuse en population générale? Donc pour ça, on a travaillé avec deux partenaires, donc notamment, je remercie le docteur Isabella Anessi Maesano qui est là, qui a travaillé avec nous sur la préparation d'une série de données historiques sur les pics de pollution. On va y revenir après. Et on a travaillé également avec la météo.org et l'équipe de Frédéric Decker sur un historique de données caniculaires. Donc ce qu'on a fait à chaque fois, c'est qu'on a regardé sur une série temporelle de 7 ans par territoire. Donc on a pris les 22 régions pour la canicule, donc les 22 ARS. On a pris comme événement le nombre de jours d'alerte canicule mois par mois dans chacune de ces 22 régions, donc ce qui fait sur une série de 80 mois, donc en l'occurrence de un tiers de ces mois, puisqu'il y a des alertes canicules qu'en juillet et en août, et malheureusement en juin depuis 2015 aussi. Et on a mis en face, mois par mois et région par région, les consommations d'un produit, d'un paquet de produits très spécifiques qui sont les solutés de réhydratation. Donc c'est des produits bien précis, donc sérum physiologique, bicarbonate de sodium, glucose, qu'on délivre aux patients évidemment qui ont des problèmes de réhydratation. Alors ce qui est intéressant, c'est que c'est un produit dont la consommation est très très stable, c'est-à-dire qu'on a un écart-type très faible sur une série de 80 mois, et là on va regarder si à l'occasion des alertes canicules, les consommations de ces produits-là augmentent. Même chose sur les pics de pollution, donc là on n'a pas pris les 22 régions, mais on a pris 12 grandes villes françaises, 12 grandes métropoles, pour lesquelles on a regardé donc, les taux moyens, mois par mois, de pollution sur chacun des polluants qui sont là, en milligrammes par mètre cube ou en microgrammes par mètre cube. Et on a regardé en face les sorties en pharmacie de certains produits, donc les produits de traitement des allergies, donc de la rhinite et des allergies, et puis les traitements de la crise d'asthme, donc de type Ventoline et produits de ce genre-là. Donc pour faire ça, on a utilisé des données que là, pour le coup, IMS, on fabrique nous-mêmes, puisqu'on a 14 000 pharmacies en France, sur 22 000 qui sont partenaires d'IMS, dans lesquels on récupère tous les jours toutes les ventes. Donc on est capable d'analyser ça et de faire des briques géographiques correspondant à la zone qu'on veut observer. Donc les 22 régions pour l'étude numéro 1 sur la canicule, ou les 12 grandes métropoles qu'on a sélectionnées avec notre partenaire pour la pollution. Voilà pour la méthode qu'on a retenue. Donc si on regarde la première étude, donc c'est les canicules. Donc déjà, on est sur un sujet dans lequel on constate que les territoires français sont inégalement exposés. Donc là, c'est le nombre d'événements mois avec alerte canicule. Donc l'alerte canicule pouvant être de 1, 2, 3, 5, 10 jours, selon les cas, dans le même mois. Donc là, c'est vraiment l'événement mois avec alerte canicule. Donc des événements comme ça, on en a 47 en 7 ans, sur 2009-2015, avec 2015 qui est une année très forte. Et puis sinon, les années précédentes sont variables, on va dire, plus ou moins fortes. Mais 2015 est vraiment une année très forte, surtout la première quinzaine de juillet qui a été très, très forte. Ce qu'on voit, c'est que les régions sont inégalement exposées. Donc ce qui est... Vous pouvez être surpris de voir que, par exemple, PACA a peu d'alerte canicule. En fait, le critère, donc c'est un critère, on va dire, officiel. Hein, la déclaration d'alerte canicule, ça répond à des critères qui sont différents selon les régions. Donc, la température pour être en alerte canicule, elle doit être beaucoup plus élevée en PACA qu'en Bretagne, par exemple, puisque donc ça répond à un historique qui est différent, à une préparation des populations qui est différente, à un environnement qui est différent. Donc, ce qu'on voit quand même, c'est qu'il y a un axe sud-ouest-nord-est qui est assez clair, avec des régions comme Aquitaine, Midi-Pyrénées, Auvergne, Bourgogne et surtout Rhône-Alpes, qui sont des régions dans lesquelles il y a eu, par exemple, Rhône-Alpes, il y a eu 8 mois sur cette période de 7 ans dans laquelle on a eu un ou plusieurs jours d'alerte de canicule. Ce qu'on a fait, c'est très simple, on a classé ces événements en fonction du nombre de jours d'alerte de canicule dans le même mois. Donc on a 6 événements qui sont un jour d'alerte de canicule dans le mois, 8 événements qui sont 2 jours d'alerte de canicule dans le mois, etc. Vous avez compris. Donc, par exemple, 10 événements à 4 jours d'alerte de canicule, un événement à 11 jours d'alerte de canicule, c'est la région Rhône-Alpes en juillet 2015, et les 6 et 7, c'est également juillet 2015, donc dans la région Auvergne, Limousin, Midi-Pyrénées, Bourgogne. Et là, ce qu'on voit par rapport à notre produit qu'on a pris comme marqueur, notre groupe de produits qui sont les solutés de réhydratation, qui sont les produits, donc c'est un petit peu un paquebot en termes de consommation, ça ne bouge pas, c'est-à-dire qu'on est à 1,2 million d'unités dispensées par les officines, été comme hiver, hein, puisque ça correspond à des pathologies bien précises. Et là, on voit que lorsqu'on a un jour d'alerte canicule, en gros, ça augmente de 4%. C'est ce qu'on a vu sur la... C'est ce qu'on va voir juste après. On a regardé la corrélation. Donc ici, on voit que, en gros, entre 1 et 4 jours d'alerte canicule, on est autour de 110%. Hein, c'est-à-dire l'index passe de 100 à 110. Quand on est à 5 jours d'alerte canicule, on est à 130. Et quand on est à 6, 7 ou 11 jours d'alerte canicule, on est à 150. C'est-à-dire que la consommation de toute la région dans un mois, augmente de 50% sur un produit qui, d'habitude, ne bouge pas. Donc, on en a déduit une corrélation, qui est celle-ci, c'est une simple régression linéaire. C'est la corrélation la plus qui marchait le mieux qu'on a trouvée, en l'occurrence. On a essayé des choses plus compliquées, mais ça marchait moins bien. Donc là, tout simplement, en traçant une droite, dès lors qu'il y a une journée d'alerte de canicule dans une région, on peut prédire quelle va être la consommation de solutés de réhydratation en multipliant par 4,4 le nombre de jours d'alerte de canicule. Donc on voit que, comme l'événement le plus fréquent que l'on constate depuis 4 ans, c'est les alertes de canicule à 4 jours dans le mois, on se dirige vers des mois d'été à 36 jours. Donc je vais laisser mon collègue présenter la deuxième étude, qui va être pas mal non plus, si je peux me permettre.
Oui, bonjour. Oui, effectivement, deuxième étude où on a cherché à faire la même chose, c'est-à-dire lier la consommation de médicaments, mais cette fois-ci sur des pathologies bien précises que sont l'asthme et avec les produits de la crise d'asthme et l'allergie, avec deux groupes de produits, les anti-allergiques par voie générale, les antihistaminiques, autrement dit, et les corticoïdes par voie nasale, et en rapprochant de statistiques donc, que l'équipe... Isabella Nizime Aizanou nous a compilé, standardisé et formaté de façon formidable pour qu'on puisse les exploiter et qui recouvre un historique un peu plus large que l'historique que l'on a pris sur les ventes. Là, on vous présente les statistiques de pollution depuis 2008. On a utilisé les statistiques de vente depuis 2009 pour corréler avec ces indices de pollution. Mais ça donne un bon reflet des niveaux des différents polluants que l'on a vus, donc dioxyde d'azote, l'ozone, les particules micron et les 2,5. Les 2,5 qu'on a finalement rejeté du champ de l'étude pour des raisons de données incomplètes, ce qui déjà souligne le problème que déjà décrivait M. Toussaint, c'est d'avoir une vision concrète des choses. Moi, j'ai été étonné en regardant les séries de voir beaucoup de trous historiques sur ces données dans certaines villes et répartis au passage de façon assez inégale. Donc, moins de chances de voir quelque chose sur ce polluant et on sait donc concentré sur les trois polluants que vous voyez sur la gauche, avec des niveaux différents, mais des niveaux qui apparaissent aussi en moyenne très élevés. Bien évidemment, on le retrouve sur Paris, mais pas uniquement. Hein. On voit Toulouse ou Marseille qui, notamment en dioxyde d'azote, atteignent des niveaux qui sont forts. Et justement, pour venir directement au résultat, quand on a corrélé les deux consommations de médicaments, autrement dit très simplement, avec un modèle très simple, la variation mensuelle des polluants d'un mois sur l'autre, et on regardait ce que ça donnait en termes de consommation pharmaceutique par rapport au mois précédent également. Et on a repéré un certain nombre de corrélations significatives. Et là, on voit bien que pour le dioxyde d'azote, j'allais dire, le carton est plein. C'est-à-dire que sur les 12 métropoles, on en a 11 où les corrélations étaient significatives, donc dans lesquelles l'évolution du taux moyen mensuel de dioxyde d'azote se traduisait, expliquait en tout cas une partie de la variation des produits de l'asthme. Pour l'allergie, on retrouve quand même aussi un certain nombre de villes qui sont significatives, et tout cela sans contrôler aucun facteur. C'est-à-dire qu'on n'a pas contrôlé le comptage pollinique qui sûrement permettrait d'avoir des données plus fines et d'avoir plus de réactivité. Mais déjà là, on voit des relations qui sont significatives. L'ozone, on n'a rien trouvé de significatif aujourd'hui, mais on peut penser que l'ozone, alors là, pour le coup, aurait bien intérêt à contrôler. On aurait bien intérêt à contrôler certains facteurs comme la chaleur associée, ce que nous n'avons pas fait. En revanche, sur les particules fines, on a là aussi un certain nombre de villes où déjà des corrélations significatives se sont avérées, avec même des niveaux, quand on les regarde en niveau, c'est-à-dire que ce coefficient de corrélation, c'est-à-dire la partie de la variation de consommation des médicaments qui est expliquée par la variation du polluant. Et là, vous voyez sur le dioxyde d'azote, donc sur ces 11 villes sur 12 pour lesquelles la corrélation était significative, qu'en plus, les coefficients de corrélation sont très forts. Et on le voit sur Paris pour le dioxyde d'azote sur l'asthme, avec une corrélation pratiquement de 0,7. Autrement dit, ce facteur seul, déjà un impact, une association extrêmement forte. On le voit aussi sur des villes comme Bordeaux ou sur Lille. Et puis sur l'allergie, on a également un groupe de corrélation qui est à un niveau au-delà de 0,20, donc déjà quelque chose, donc au-delà d'un cinquième de la variation du marché des médicaments expliqué par la variation des polluants. De la même façon, mais sur moins de villes sur cette simple analyse, on a ces coefficients de corrélation qui peuvent être entre 0,20 et 0,40. Donc on voit bien là qu'on met en évidence une relation. C'est une étude vraiment un premier stade exploratoire pour voir si ça vaut la peine. Et oui, ça vaut la peine. Oui, le médicament, et intuitivement, on pouvait le penser, mais c'est encore mieux de le prouver et de le quantifier, est un élément réactif que ce soit sur les alertes canicules ou que ce soit sur la pollution. Deuxième chose, c'est qu'il a intérêt d'être facilement disponible. On est là pour ça et c'est notre métier. Et troisième chose, c'est que, comme le disait Dominique Perrault, on a cette possibilité de pouvoir le restreindre à des zones géographiques très précises et donc de contrôler beaucoup de facteurs et de mettre en évidence des effets de façon excellente. Donc oui, on voit l'effet de déshydratation mesuré avec un indicateur médicamenteux à partir des événements caniculaires. Oui, on voit une réaction forte des consommations de produits pour les allergies et pour les crises d'asthme liées au pic de pollution. Et ça nous laisse pas mal de pistes en fait, de compréhension supplémentaire qu'on peut aller chercher. D'abord, intégrer des modèles un peu plus complexes et multifactoriels, que ce soit des facteurs dans une relation de causalité ou que ce soit des facteurs pour contrôler et standardiser les données. Deuxième voie, c'est que nous sommes intéressés à un effet immédiat. On pourrait aller quantifier des effets, je veux dire, retard ou à plus long terme de certains événements, qu'ils soient liés à la température via notamment les épisodes caniculaires ou à la pollution. On pourrait aussi étendre, je vais dire, le champ d'étude à plus de territoires. Au passage, d'ailleurs, inclure les consommations intra-hospitalières, car nous étions uniquement sur les consommations villes. Et puis, étendre aussi à d'autres risques. Il y a pas mal d'études publiées sur la pollution et hospitalisation pour cause cardiaque. Il serait sans doute intéressant d'aller isoler des bons paniers de médicaments à étudier pour lier les deux. Et puis, peut-être aussi isoler des populations à risque. Bien évidemment, les patients plus âgés, mais pas seulement. On a des moyens d'identifier des pathologies via des traceurs pour aller étudier vraiment l'impact et voir quel peut être l'éventail d'impact, son minimum et son maximum. Enfin bref, des nouvelles voies de recherche qui semblent très intéressante au-delà des questions d'hospitalisation, d'essai, mais bien d'incorporer cet indicateur qu'est le médicament comme indicateur de mesure de l'état de santé des Français. Merci.
Merci beaucoup. Bravo pour cette étude. Alors, Je crois qu'on a eu beaucoup de chiffres. On voit aussi la difficulté, peut-être, des vocabulaires un peu techniques. Mais je crois que c'est important aussi d'avoir ce type d'études. C'est important ce que vous a présenté aussi Jean-François. Il y a plein de dimensions. Enfin, on ouvre, quand on parle de santé et environnement, évidemment, les questions des décès, espérance de vie, etc., sur lesquelles vous insistez, c'est important, mais aussi des questions de qualité de vie quand on parle d'allergie, puis aussi des questions économiques, puisque des incidences de ces problèmes de climat, environnement sur la santé, c'est aussi évidemment des coûts infiniment renforcés et de la mise en difficulté encore plus forte des gens plus en précarité. Vous avez tous les trois insisté là-dessus. Alors, on va prendre maintenant un temps de questions-réponses. Je vais libérer, je crois, le micro à chef pour prendre autre chose, pour que Placide... voilà. Voilà, donc, alors, vous connaissez la règle, elle est simple. Bah, vous présentez, parce que tout le monde ne vous connaît pas forcément. Et vraiment des temps très très courts. Là, il nous reste à peu près 20-25 minutes de débat. Voilà. Et donc, nos amis intervenants. Jean-François, vous venez avec moi ? Avec nos amis ? Si vous voulez venir tous les trois. Et comme ça, vous pourrez répondre. Mais vous pouvez aussi profiter chacun de votre expertise collective, parce qu'il y a aussi de la connaissance dans la salle. Donc, merci de nous recevoir encore.
Bonjour, Madeleine Valérius, ESCP Europe. Alors, avant de poser ma question... Il faut que tu mettes
le micro un tout petit peu plus près, je crois.
Avant de poser ma question, je tenais à remercier tout particulièrement les intervenants et le Club France d'avoir eu le courage, hein, je dis bien le courage, de mettre ce type d'études et de réflexions au centre d'une... avant la COP21. Pourquoi le courage ? Parce que, bon, et parler de la santé et parler de ses conséquences, on le fait généralement au moment où il y a des événements via la télévision, etc., et au grand public. Je tenais aussi à excuser le directeur général de ESCP Europe, Franck Bournois, qui aurait souhaité être avec nous ce matin, et Olivier Delbar, qui est parti à Tunis hier soir, donc qui est coordinateur Europe de l'école, et vous dire que le message sera passé, hein, parce que j'ai tout à fait retenu la phrase qui pour moi était la plus importante, c'est-à-dire il faut intégrer l'écologie de la santé dans l'enseignement et les cursus universitaires et de grande école, et le lien qui pour moi paraît évident en qualité de philosophe, hein, puisque c'est ma formation, entre le problème de santé et le problème économique, hein, me conforte encore dans l'idée de dire que dans cette école où on doit former des managers et trouver de nouveaux modèles, de business models pour un futur durable, c'est vraiment très important. Alors, la question que j'avais, c'était comment, justement, dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement, faire passer de manière, disons, plus grand public et plus facile ce type de questions à des jeunes et à des étudiants. Quels seraient, est-ce qu'il y aurait des cas, des choses comme ça donc, voilà.
Alors, on va prendre plusieurs questions, si vous avez, sauf s'il y en a une seule. Juste, tiens, Placide, si tu veux. Est-ce que vous avez, si vous voulez lever la main, n'hésitez pas, parce que je ne regarde pas partout en même temps. Allez-y.
Oui, bonjour, je suis journaliste indépendante, Alice Sauti. Moi, je suis interpellée par vos sources, par les données que vous présentez, qui sont essentiellement des sources, on va dire, en provenance de pays de l'OTAN. Et par les modèles informatiques que vous proposez, qui sont finalement, des, comme vous le dites vous-même d'ailleurs, des scénarios. Et je m'interroge aussi à propos d'un scientifique entomologiste. Un entomologiste, c'est un spécialiste des insectes, qui a participé à la rédaction du troisième rapport du GIEC et qui s'appelle Paul Reiter. Paul Reiter a démissionné du GIEC parce qu'il était en désaccord avec l'instrumentalisation qui a été faite de ses travaux. Donc, on voulait lui faire dire qu'en fait, c'était la température, l'élévation thermique qui était à l'origine de tous les problèmes. Et Paul Ritter a dit, ben non, ce n'est pas l'élévation thermique. La pollution, elle vient d'autre chose. Alors, moi, je me pose une question. Je me demande à qui profite l'élévation, la théorie du réchauffement. Parce que c'est une théorie, hein, ce n'est pas scientifique. Il y a pas, c'est des modèles informatiques que vous avez proposés. Donc, en fait, à qui profite-t-elle? Et la réponse pour des étudiants en commerce, je crois qu'elle va être facile à trouver parce qu'il n'y a rien de secret dans ce que je dis. Elle se trouve dans la bourse au carbone. La bourse au carbone qui est une invention d'Al Gore que tout le monde connaît et qui a pour but, via la COP21, eh bien, de taxer le carbone. Parce que le carbone, comme toutes les matières premières, eh bien, on spécule dessus. Donc moi, je voudrais simplement dire que la vraie pollution, elle est ailleurs. Vous avez parlé des nitrates, oui. L'agriculture intensive, ça, oui. Ça, c'est la source de la pollution. Les épandages aériens d'aluminium, de barium, de strontium, on a toutes les analyses par des laboratoires indépendants, pas par des experts payés par les labos pharmaceutiques et les multinationales. Ce que je précise au passage, que je travaille aussi pour des associations lanceurs d'alerte, comme Robin des Toits, etc., qui se battent pour dire la vérité sur la pollution, et puis sur les ondes électromagnétiques, parce que le vrai problème du réchauffement, c'est les micro-ondes. Quand vous faites chauffer un truc dans un micro-ondes, vous savez très bien que ça réchauffe.
Alors je vous, voilà. Vous avez mis un point de vue. On va,
oui, voilà, c'est un point de vue, puisque c'est un débat, donc un débat démocratique.
Mais personne ne vous dit le contraire.
Voilà, non, non, absolument, absolument. Et j'attends une réponse sur Paul Ritter. Merci.
On va juste partager la parole. Est-ce que quelqu'un d'autre veut tout de suite poser une question, une réponse, etc.? Alors d'abord, il faut faire attention sur le « vous » parce que les points de vue sont forcément différents. Est-ce que, alors, il y a deux questions. Il y a une approche, effectivement, sur la vision sceptique sur les réchauffements climatiques, donc le GIEC, sur lequel on peut... Vous avez un avis, je vais pouvoir exprimer le mien. Puis il y a aussi la question de l'éducation et de la place dans les écoles, mais peut-être qu'on peut commencer par la première question, on en viendra après à la suite.
Oui, effectivement, c'est une question qui est particulièrement difficile, celle de savoir conserver de l'espérance pour les générations à venir, sachant que l'avenir que l'on lit actuellement, et on peut se tromper à de multiples reprises et pour de multiples causes, est celui de donner ces caps, ces jalons vers lesquels on aimerait se diriger ou éventuellement éviter. Et j'ai toujours cette impression qu'on a atteint nos plafonds à la fin du XXe siècle, au début du XXIe, pour là encore quantité d'éléments. Je vous ai montré un sur l'espérance de vie, mais il y en a quantité d'autres qui nous montrent qu'on ne progresse plus dans un certain nombre de domaines depuis 20 ans. Et pourtant, il reste des sources, il reste des capacités de progression, y compris sur les compréhensions et y compris sur l'acceptation. Parce que là, c'est la chose la plus difficile à faire partager, non seulement pour des patients, mais de façon générale pour remettre en question ces interprétations, remettre en question, et on en a quantité, remettre en question ses espoirs et les forcer à un moment donné dans le creuset douloureux de la réalité. Comment on arrive à tenir ça alors qu'on a besoin de faire passer des options, des constats, des phénomènes constatés, réalisés, certifiés, c'est-à-dire globalement par 6000 personnes, juste pour le GIEC, 6000 personnes qui travaillent de façon indépendante, chacun sur les mêmes domaines, et qui viennent tous à la même conclusion. Bon, voilà, donc on peut toujours remettre en question l'idée du réchauffement climatique, on peut remettre en question l'idée de la mort, hein, quantité de gens vont vous dire qu'il y a plein d'autres choses, mais il y a un moment donné, il faut se voir se parler pour avoir un projet commun. Et donc c'est dans ce domaine-là que la construction de l'éducation, de la formation va être la plus importante, y compris pour que toutes les générations qui sont déjà en cours à cette heure-ci, fort heureusement, puissent avoir une capacité à se mobiliser sur la lutte contre ces risques et en même temps sur des objets qui seront probablement, et ça, là où on les voit de façon les plus intéressantes, c'est dans ceux des capacités, en particulier énergétiques, qui peuvent remplacer, traduire et aller dans un sens qui soit à la fois technologiquement, à la fois industriellement, à la fois sur le plan de business model, tel que vous cherchez à les définir, à la fois sur le plan social et managérial, d'ailleurs, pour tenir compte de toutes les capacités humaines mises en, en jeu, à leur donner une polarité, à leur donner une vision de long terme. C'est pas simple, c'est pas résolu, ni dans les facultés de médecine, ni dans les facultés de droit, ni dans les écoles de commerce, ni dans les écoles d'ingénieurs, qui elles-mêmes sont à tenter de développer des solutions à la transition énergétique, dont on voit à quel point elle va être importante. Voilà, donc c'est sur tous ces plans-là, je ne peux pas prétendre à donner une... une solution très simple dans ce domaine, mais c'est sur ces différents points qu'il faut pouvoir intervenir, et peut-être pas forcément en dehors de quelques-uns de ces débats essentiels, trouver les conditions qui permettent un relais informatif et pas un relais qui vienne dire voilà, la grille est là, on a toujours cet impact, et le réchauffement lui-même fait partie de ces débats dans lesquels on dit je ne veux pas entendre cette limitation. Je ne veux pas voir cette chape de plomb. Je ne veux pas voir ce risque. Et donc, du coup, on a tous tendance à dire « Mais non, ça n'existe pas. » On regarde ailleurs et on dit « Ah, là-bas, le monde est rose. » Ça, c'est une solution très simple, qui est une belle solution d'adaptation de l'humanité depuis longtemps.
Moi, je vous trouve quand même...
forcément la bonne. Hein. Soyons clairs.
Un tout petit peu déprimé quand vous dites que...
Déprimé, non.
Dépressif, vous préférez ? Vous préférez dépressif, peut-être. Non, quand on parle aux étudiants, je pense quand même, effectivement, dans une situation actuelle qui donne le sentiment de non-avenir, mais peut-être parce qu'on est en fin de cycle. Il s'avère que je viens de finir une mission dans le monde universitaire aussi, enfin l'Institut Mines-Télécom, et les étudiants, eux, sont dans des perspectives de nouveaux lieux à explorer. Je crois que l'humanité a besoin de s'inventer, etc. Ce qui est une vraie difficulté, c'est notre capacité en ce moment à une vision négative de l'avenir, notamment sur des éléments très, très objectifs, et ce que vous avez dit en termes de santé, même si on n'a jamais de certitude. Enfin, qui dans la salle est capable de dire comment il vivra dans 15 ans, aujourd'hui, sur quel mode de vie, dans quel endroit, etc. C'est totalement impossible.
La seule chose dont on est sûr, c'est qu'on n'y sera plus nous-mêmes à l'horizon 2100. Et c'est par rapport à ces certitudes-là. Voilà.
Oui, vous savez, quoi, ce que disait Woody Allen, l'éternité, c'est long, surtout sur la fin. Je crois qu'il y a une vision aussi très négative aujourd'hui du monde artistique. On a du mal à se projeter. Tous les auteurs de science-fiction, eux, sont totalement dépressifs, même si on a beaucoup de plaisir à les lire. Mais je crois qu'il y a quand même des univers de réinvention. Et moi, je réfute totalement l'idée de se dire, en gros, on va vivre le moins mal possible dans les années qui viennent. Non, je crois qu'il y a des vraies bascules, et Paris 2015 est une vraie opportunité aussi pour remettre à plat. Mais pour revenir à ta question, c'est celle, effectivement, comment on éduque les gens face à un monde incertain, complexe, difficile. On sait qu'on va vivre des choses compliquées et que l'humanité n'a pas le temps de s'adapter, en tout cas sous son mode ancien. Et d'autant que 2 milliards de personnes sont nées depuis 2000 et qu'on va être 10 milliards en 2050, ce qui est quand même... Enfin, 10 milliards, 9, 10, enfin 15. Enfin, après, on sait plus prévoir non plus précisément. En tout cas, les démographes nous disent à peu près 10. Voilà. Donc, mais je crois que c'est aussi du renforcement de capacités qu'il faut faire, et aussi leur faire confiance, les étudiants. Mais il y a quand même peut-être la vraie difficulté aujourd'hui de l'enseignement, en tout cas, c'est ma position, c'est de créer les transversalités. Et effectivement, y compris dans une école de management, être capable de parler environnement, développement durable, climat, santé, etc., et montrer qu'il y a des interactions, parce que des débats comme on a aujourd'hui, ils commencent à y en avoir, mais ils n'ont pas 15 ans. Des études comme on a aujourd'hui, elles n'en ont plus. Enfin, ça a été longtemps une démarche réservée à certaines hyper spécialistes, et aujourd'hui, c'est partagé par la société. Et quand l'OMS annonce 50% de gens allergiques dans le monde en 2050, il y a de quoi s'inquiéter très, très fortement. Voilà. Alors après, en réaction à la question de madame, la mise en doute du réchauffement, d'abord le doute fait partie des débats, je pense, sur le plan scientifique. Moi, ma position, c'est que la vision du GIEC est très raisonnable et plutôt optimiste, parce que c'est négocié, et qu'effectivement, c'est quand même une expérience mondiale exceptionnelle. Maintenant, effectivement, le doute fait partie... Mais ma conviction, c'est que les gens du GIEC sont globalement honnêtes. Après, que des gens rejettent, se trouvent instrumentalisés sur 6000, il y en a un ou deux. Enfin, je pense que c'est le sens de l'histoire et d'une démarche scientifique qui est la vôtre.
Oui, absolument. On, voit sur cet individu particulier dont je ne connais pas ni l'histoire ni la situation qui a été la sienne, une histoire qui est tout à fait simple, habituelle, d'une prise de position par rapport à ce qu'est la tendance générale de ceux qui, progressivement, cumulant les expériences et les démonstrations. Attention, c'est pas juste, je crois savoir que peut-être et à l'infini on n'y arrive pas. Non, ce sont des faits qui s'accumulent dans le rétroviseur, c'est-à-dire ce sont des faits qui se sont réellement passés, dont la construction finit par donner une vision, une interprétation du monde commune à plus de 6000 personnes, 6000 représentants de 6000 équipes de l'ensemble des pays. Un point sur lequel vous avez parfaitement raison, c'est celui de dire qu'elles sont peut-être un petit peu trop européocentrées ou américano-centrées. On l'a dans tous les débats scientifiques, c'est-à-dire que la science, en particulier dans la santé, va commencer par interroger les pays développés et l'état de santé des personnes dans les pays développés, et on a beaucoup moins d'informations sur ce qui se passe au sud de l'Inde, ce qui se passe au Zimbabwe, de ce qui se passe en Papouasie-Nouvelle-Guinée, parce que ces éléments-là n'ont pas d'indicateurs, n'ont pas de chiffres, ne remontent pas, parce que le développement de ces pays, pour l'instant, n'a pas permis de le faire, et que les scientifiques ne s'y intéressent, des pays développés ne s'y intéressent pas forcément. Une fois que cela est dit, et que d'autres éléments, et on le voit en particulier dans l'Afrique subsaharienne, commencent à apporter énormément d'éléments par rapport à ce qui était encore le cas il y a 30 ans, on voit de toute façon que ces éléments et ces évolutions-là sont les mêmes. Et elles répondent aux constructions, aux modèles. Le modèle, c'est quoi? C'est simplement de se dire, j'imagine que si ça s'est produit de cette façon, et si je construis une théorie qui l'explique, alors à ce moment-là, j'ai une petite capacité, non pas de prédiction des choses, mais d'envisager des options. Globalement, vous en avez une immense, qui a été celle de 72 du Club de Rome, dans le rapport Meadows, qui vous a donné très précisément toutes les conduites possibles avec énormément de pollution, avec diminution des productions agricoles, avec industrialisation, avec des solutions techniques, avec dressé il y a 40 ans. Quelle a été finalement, lorsqu'on a fait le bilan il y a 5 ans, de tous ces scénarios proposés par Denis et Donna Meadows, quel a été le bilan? Business as usual. C'est-à-dire que l'humanité a suivi un seul chemin, celui qui était celui de sa tendance principale. Et c'est ça aussi qu'il faut retenir par rapport à ce que seront les possibilités d'adaptation, les possibilités d'éducation, de formation. C'est comment on se construit tous et quelles sont finalement nos façons d'avancer. Eh bien, on en partage un grand paquet chez Sapiens. On marche, on décide, on prend des solutions qui sont des solutions communes vers lesquelles on s'avance. Est-ce que ça, on est capable de les prendre et d'en retirer l'élément le plus négatif pour rester enthousiaste? Parce que ça, il faut conserver cette capacité de projection. C'est tout cet élément-là. Mais de dire que ça profite aux uns et aux autres, vous savez, si dans la sixième extinction, on a tous disparu d'ici 200 ans, ce que certains annoncent, je ne sais pas à qui ça aura profité, mais ni à vous, ni à moi.
Alors, encore quelques questions. On va prendre une dernière série de questions. Je suis désolé, on a pris un petit peu de retard, mais c'était important de prendre le temps de dérouler ces études. Il y avait deux là-bas, une ici. Alors, allez-y, vous avez le micro. Commencez, madame. Oh, c'est bon, il est en marche.
Bonjour, je m'appelle Solveig van Kleist. Je suis artiste, mais très intéressée dans les questions du climat.
Le mais étant trop, on peut dire artiste et intéressé.
Oui. Il y a un grand nombre de chercheurs, de climatologues internationaux qui ne sont pas d'accord sur la thèse du réchauffement à cause des émissions de CO2 par les humains. Est-ce que vous admettez, ça c'est ma première question, est-ce que vous admettez qu'il y a pas de consensus scientifique, parce que c'est ce qu'on entend tout le temps dans les médias. On nous dit toujours qu'il y a un consensus. Alors, et donc, ça, c'est faux.
Vous avez une deuxième question?
Oui, elle arrive. Donc, c'était très intéressant d'avoir les détails sur la pollution de l'air avec les particules fines, etc. Donc, il faut monter les maladies pulmonaires et autres. Mais je n'arrive pas à voir le lien avec les CO2. Parce que les CO2 ne figurent pas sur la liste des polluants, par exemple, de Air Paris. Est-ce que, d'un point de vue scientifique, vous maintenez que le CO2 est un polluant?
Alors, je crois que personne n'a dit ça, mais c'est effectivement, Jean-François va pouvoir répondre.
Mais j'ai un petit truc à rajouter encore, alors, s'il vous plaît.
Oui, parce que d'autres personnes veulent s'exprimer.
Oui. Quel est le pourcentage réel du CO2 dans la composition de l'atmosphère, pardon, de l'atmosphère? Et quel est le plus important gaz à effet de serre?
Merci.
Et alors, quel pourcentage?
On va pouvoir répondre. On va prendre les deux questions. Monsieur, il y a derrière. Et, enfin, tous les, très rapidement, s'il vous plaît.
Bonjour, je suis à la fois ancienne élève de l'ESCP Europe.
Et félicitations.
Merci. Et je travaille pour un lobby citoyen américain. Donc, je suis basée à Washington sur des questions de microcrédit et d'exclusion. Je travaille pour la COP21 qui arrive. Par rapport aux questions de vulnérabilité et d'extrême pauvreté, on a parlé de vieillissement et surtout en France, en Europe, enfin, la question de la pyramide des âges est en effet essentielle. Par rapport aux pays du Sud et notamment les grandes métropoles du Sud, comment, alors je sais bien que vos recherches sont plutôt sur les questions françaises, mais quel est votre avis? Est-ce que ces métropoles du Sud seront assez représentées pendant la COP21? Et comment aborder ces questions de vieillissement et de climat pendant la COP21?
Ok, merci.
Fabien Skinazi, Société française Santé et Environnement, c'est une question sur l'association entre épisodes de pollution et la consommation des médicaments anti-asthmatiques et anti-allergiques. Il n'y a pas un facteur qui a été cité, c'est celui des contes polyniques, qui peut avoir aussi un impact, parce que je pense qu'on a montré aussi que l'augmentation des contes polyniques faisait augmenter la consommation de ce type de médicaments. Également, peut-être également d'autres petites allergènes ou d'autres polluants intérieurs qui peuvent être également source de consommation de médicaments. Donc voilà, c'était simplement pour montrer qu'il y avait peut-être d'autres facteurs à prendre en compte dans votre étude par rapport à ce que vous avez présenté.
Bon, je crois qu'il a précisé que c'était une première. Donc, monsieur et enfin monsieur au fond, au milieu là.
Bonjour, Benoît Briot, trésorier de Génération Cobaye. On a une asso de 18-35 qui sensibilise à la santé et environnement et on essaie de proposer des solutions positives aux jeunes. Qu'est-ce que vous voyez comme solution simple à mettre en place pour à la fois améliorer la santé des jeunes et lutter contre le changement climatique? Vraiment simple. Merci.
La question est d'une grande simplicité. Merci. Je pense que si vous aviez prévu quelque chose d'ici demain matin, ce n'est pas la peine.
Hervé de Labatie, fonctionnaire qui s'occupe de préparer la COP21. Qu'est-ce que vous répondriez à quelqu'un qui vous dirait que vos études sont très intéressantes, mais que finalement, elles confirment des évidences? On prend plus de solutés de réhydratation quand il fait chaud que quand il fait frais. On prend plus de ventoline quand il y a de la pollution que quand il n'y en a pas. Et qu'après avoir augmenté l'espérance de vie de plusieurs dizaines d'années en environ 2 siècles, bien forcément, ça ralentit et que les marges de progression sont de plus en plus faibles. Est-ce que finalement, ces études n'aboutissent pas quelque part à enfoncer des portes ouvertes? Merci.
Alors, on va commencer par vous deux. Il y a 2 questions qui vous concernent. Évidemment, il nous reste 3 minutes pour finir.
Oui, donc je vais répondre sur le facteur pollinique. Merci de l'avoir souligné. Je l'avais évoqué dans la présentation en disant c'est une première étude exploratoire et nous n'avons pas contrôlé le facteur pollinique, et ce qui serait sans doute très intéressant de faire, comme le facteur chaleur d'ailleurs pour l'ozone, effectivement. Mais c'est déjà frappant qu'on voit cette association alors même que ce facteur n'est pas contrôlé, qu'au passage, ces produits, en tout cas une partie de ces produits, les antihistaminiques, sont aussi destinés à des affections dermatologiques et pas uniquement ORL. Donc de voir des réactions, c'est tout à fait intéressant, et des réactions qui intuitivement font du sens, et en même temps, il y a des villes où ce n'est pas significatif. Et ce qui sera plus intéressant, c'est d'aller creuser sur la force de cette association, parce qu'au passage, sur les deux... Après, je vais passer la parole à Dominique qui va répondre plus complètement sur cet aspect. Mais au passage, il y a un problème très pratique sur les pics de consommation. C'est des problèmes logistiques, d'approvisionnement et de rupture. Au passage, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a de plus en plus de ruptures de médicaments. On a un très fort maillage en pharmacie d'officine de ville en France. On a cette chance. Il n'est pas toujours évident d'avoir, je ne sais pas si ça vous est arrivé, d'avoir un produit prescrit, puis bon, on dit vous revenez le lendemain. Là, ça pose des questions aussi d'anticipation, de gestion de crise pour avoir notamment les produits de réhydratation disponibles au bon moment, puisque ce sont des produits quand même relativement d'urgence, comme les produits de la crise de l'asthme.
Tout à fait d'accord sur le facteur pollinique, mais quand on regarde les séries temporelles, on a aussi des associations quand il n'y a pas les pollens, à savoir en hiver. Donc, c'est une façon d'ajuster un peu sur l'élément pollinique, mais on fera ça mieux dans la suite.
En une minute.
La dernière question, donc, est-ce qu'on enfonce des portes ouvertes? Donc, peut-être la question quand même se pose de combien la porte est ouverte. Donc, on répond à cette question, c'est-à-dire qu'on répond sur quelle est la quantité d'effets en santé de tel ou tel phénomène climatique ou pollution. Donc ça, on pense que c'est intéressant de savoir que en termes de, je dirais, pour reprendre le point de Stéphane, en termes de d'impact en santé, du point de vue de la réhydratation et donc de l'impact sur les gens qui ont ce type de problème, un mois d'été, c'est plus 31 jours, c'est 36 jours. Ou que les deux tiers de la consommation, de la surconsommation de produits asthmatiques, par exemple, sur Paris, sont liés au taux de NO2. Donc, ça, ce sont des réponses chiffrées, concrètes, qui donnent une mesure de l'angle d'ouverture de la porte.
Merci. Alors, Jean-François, plusieurs questions, dont celle, qu'est-ce qu'on fait simplement, qui est quand même, effectivement, qui nous renvoie quand même à l'aspect éducation, mais effectivement, qui renvoie à quelle capacité d'action collective on peut avoir. Mais peut-être, bon, je pense que c'est sur l'aspect, est-ce qu'il y a consensus ou pas? Moi, je considère qu'il y a consensus. Je pense que vous considérez qu'il y a consensus. On est 7 milliards. On a le droit de ne pas considérer qu'il y a consensus. Mais de toute façon, la négociation officielle à 195 pays plus l'Europe a pris les 2 degrés et le cinquième rapport du GIEC comme référence. Donc, je crois qu'on peut appeler ça un consensus. Après, il y a des points de désaccord. Sur les autres questions, le CO2 peut-être rapidement déjà.
Sur la porte ouverte, juste avant ça... Très clairement, vous reposez un débat historique qui a été celui de Voltaire et de Leibniz, celui de Pangloss et de Candide, globalement. À quoi ça sert d'ouvrir les yeux sur notre mort future? Bon, alors on peut très bien dire ça ne sert à rien et donc on oublie notre seule capacité, qui est celle de transmettre aux générations suivantes le peu qui nous a permis de progresser par rapport à la génération précédente. Monter sur les épaules des géants, c'était bien celui que reprend Jean-Claude Ameisen tous les samedis, mais qui était celui de Bernard de Chartres, de dire à un moment donné, on est capable d'apporter encore une petite pierre. Voilà, notre seule contribution là. Et quand vous dites par contre que tout cela était connu, je suis désolé, mais les questions qui ont démontré les impacts de pollution sur la mortalité cardiovasculaire et sur la mortalité respiratoire, c'est des grandes études qui ne sont pas si vieilles que ça. Avant, absolument pas la capacité de comprendre et d'imaginer ce qui était là. Alors on rentre dans les détails, on vient, comme on l'a dit, apporter du NO, on vient du NO2, on vient de prendre de l'ozone, on vient et on voit tout d'un coup que, tiens, c'est la même chose, comme je le montrais, au début et à la fin de la vie, sur les malades, comme sur les marathoniens d'ailleurs. C'est exactement les mêmes rapports qu'on a, qu'on a étudié le marathon de Berlin, de Paris, etc., sur lesquels on va avoir des impacts climatiques démontrés très forts entre des composantes telles que celle-ci et une capacité. La capacité de performance étant à la fin celle de la durée de vie. Et donc sur l'ensemble de ces éléments, on voit qu'il y a des choses qui deviennent très fortes. Alors vous me posiez la question, quel est l'élément, le gaz le plus important dans la contribution à l'effet de serre? Ben, c'est l'eau, bien sûr, c'est la vapeur d'eau, c'est lui le plus important. Le seul problème, ce n'est pas la question de l'eau, ce n'est pas la question des nuages qu'on n'arrive pas à modéliser encore très bien, mais ça progresse, c'est celui des composés à côté. Et ces composés d'origine anthropique que sont le méthane et le CO2. Et c'est le CO2 qui fait le problème actuellement du réchauffement, sauf pour 2 personnes qui pensent le contraire sur 100 à peu près. Alors, ces deux-là ont peut-être raison, l'avenir nous le dira, mais une fois de plus, peu importe. La question, c'est est-ce qu'on est capable d'imaginer le futur, les scénarios, les options, et donc en fonction de ça, aider la réduction des incertitudes, non pas de la vérité assénée, mais de la réduction des incertitudes, est-ce qu'on est capable de proposer des chemins, des parcours qui viendront? Je ne sais pas si les villes du Sud seront suffisamment représentées à la COP21 pour y répondre. La seule chose que je peux dire sur votre question, c'est que oui, il y a des solutions très simples, et c'est de gagner sur des bénéfices collectifs, les bénéfices communs qu'on va avoir en jouant sur la santé, l'environnement, l'espérance de vie, éventuellement l'économie, enfin sur un certain point. L'une de ces solutions-là, c'est prendre son vélo à Paris. Ça diminue l'effet polluant, ça diminue la mortalité routière, parce que c'est la vitesse moyenne qui compte, hein, casque ou pas casque, c'est pas le problème, la question c'est juste d'avoir une diminution du trafic, de la vitesse moyenne du trafic à l'intérieur des villes, et sur l'ensemble de ces points-là, vous avez des bénéfices de santé liés à l'activité physique, vous jouez sur la sédentarité, vous redécouvrez votre ville et vous partagez socialement beaucoup plus que lorsque vous êtes dans le métro coincé à 8 par mètre carré, hein, c'est la limite, 8 par mètre carré. Surtout, vous gagnez sur le plan de la pollution. Donc il y a des éléments très clairs hein, qui nous permettent petit à petit d'amener des solutions très simples.
Oui, enfin, il y a aussi beaucoup d'autres solutions. D'ailleurs, je vous encourage à venir les voir au Grand Palais. Beaucoup seront là au niveau des modes de déplacement, façon de s'alimenter, baisser la quantité de viande parce que le méthane est quand même aussi impactant. Enfin, mais je crois que chacun peut y participer. Je crois que, et les villes du Sud seront là. Alors, les villes ne font pas partie de la COP21 en tant que telle. Toutes les villes sont invitées, dont les villes du Sud. C'est les pays qui discutent. Et de toute façon, c'est une voix, un pays, unanimité. Donc la règle est extrêmement simple, un pays du Nord ou du Sud peut tout bloquer à Paris le 12 décembre cette année. Je crois que tout le monde en a bien conscience aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup. Je crois que c'est un vrai point de départ aujourd'hui, mais on a encore plein de choses à se dire. Et n'oubliez pas aussi la conférence au Grand Palais. Il y a quelques dates. Vous avez les dates ? Voilà. Vous allez voir qu'on va revenir ici. Encore merci beaucoup à l'ESCP. À bientôt. Merci. Merci à tous les trois aussi d'avoir pris votre temps.